L'histoire débute en 1943, en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes dans une arrière-cour, au milieu des décombres créés par des escouades nazies dans le ghetto juif de Varsovie. Les personnages qui parlent sont le grand-père, la grand-mère, ainsi que le père d'une petite fille, laquelle est évoquée par un carré de sable et quelques jouets. Il s'adresse à la mère, qui est assise près de l'enfant.
Dis-lui que c'est un jeu.
Dis-lui que c'est sérieux, mais ne l'effraie pas.
Ne lui dis pas qu'ils vont la tuer.
Dis-lui que c'est important de ne pas faire de bruit.
Dis-lui qu'on lui donnera du gâteau si elle se tient tranquille.
Dis-lui de se blottir, comme si elle était dans son lit.
Mais de ne pas chanter.
Dis-lui de ne pas sortir de là.
Dis-lui de ne pas sortir même si elle entend crier.
Ne l'effraie pas.
Dis-lui de ne pas sortir même si elle n'entend rien pendant un long moment. Dis-lui que nous viendrons la chercher.
Dis-lui que nous serons là tout le temps. Dis-lui quelque chose sur ces hommes. Dis-lui que dans le jeu, ils jouent les méchants.
Dis-lui que c'est une histoire.
Dis-lui qu'ils vont partir. Dis-lui qu'elle peut les faire partir si elle ne bouge pas.
Comme par magie.
Mais de ne pas chanter.
Mais de ne pas chanter.
Mais de ne pas chanter.
Nous sommes au même endroit, quelque temps après la fin de la guerre. Les mêmes personnages sont là, sauf la grand-mère, morte dans les camps de concentration nazis. Il parle cette fois au père de l'enfant.
Dis-lui que c'est une photo de sa grand-mère, de ses oncles et de moi.
Dis-lui que ses oncles sont morts.
Ne lui dis pas qu'on les a tués.
Dis-lui qu'on les a tués.
Ne l'effraie pas. Dis-lui que sa grand-mère était forte.
Ne lui dis pas ce qu'ils ont fait.
Dis-lui qu'elle avait du courage. Dis-lui que c'est elle qui m'a appris à faire des gâteaux.
Ne lui dis pas ce qu'ils ont fait.
Dis-lui quelque chose.
Tu en diras plus quand elle sera plus grande. Dis-lui qu'il y avait des gens qui détestaient les Juifs. Ne le dis pas.
Dis-lui que maintenant, c'est fini.
Dis-lui qu'il y a toujours des gens qui détestent les Juifs.
Dis-lui qu'il y a des gens qui aiment les Juifs. Ne lui dis pas de penser juif ou non-juif. Tu en diras davantage quand elle sera plus grande.
Tu lui diras combien quand elle sera plus grande. Dis-lui que c'était avant sa naissance et qu'il n'y a plus de danger.
Ne lui parle même pas de danger.
Dis-lui que nous l'aimons. Dis-lui que morte ou vivante, toute sa famille l'aime.
Dis-lui que sa grand-mère serait fière d'elle.
La même famille, à Varsovie toujours, ou dans une autre ville d'Europe. Un nouveau personnage apparaît dans un nouveau décor. Il s'agit de la tante de la petite fille qui, de son appartement de New York, parle à sa famille au téléphone. La mère prépare des bagages. Il y a quelques mois, l'ONU a autorisé la création d'un nouveau pays qui s'appellera Israël.
Ne lui dis pas que nous partons pour de bon.
Dis-lui qu'elle peut écrire à ses amis. Dis-lui que ses amis pourront peut-être lui rendre visite.
Dis-lui qu'il fait soleil là-bas. Dis-lui que nous allons chez nous.
Dis-lui que c'est la terre que Dieu nous a donnée.
Ne lui parle pas de religion.
Dis-lui que le père de son arrière-arrière-arrière et encore arrière-grand-père vivait là-bas.
Ne lui dis pas qu'on l'a chassé.
Dis-lui, bien sûr, dis-le-lui, que tout le monde a été chassé et que le pays attend notre retour.
Ne lui dis pas qu'elle n'est pas chez elle ici.
Dis-lui que, bien sûr, elle aime vivre ici, mais que là-bas, ça lui plaira encore plus.
Dis-lui que c'est l'aventure.
Dis-lui que personne ne se moquera d'elle.
Dis-lui qu'elle se fera de nouveaux amis. Dis-lui qu'elle peut prendre ses jouets.
Ne lui dis pas qu'elle peut prendre tous ses jouets.
Dis-lui qu'elle est une fille extraordinaire.
Parle-lui de Jérusalem.
Quelques semaines plus tard, les personnages découvrent ce qui s'appelait jusque-là la Palestine. Ce sont les mêmes personnages, ou d'autres, qui leur ressemblent. Avec la même petite fille, ou bien une autre qui lui ressemble. Ils se parlent entre eux et parlent également au père, qui est assis sur un banc de parc, à Tel Aviv par exemple.
Ne lui dis pas qui ils sont.
Dis-lui quelque chose.
Dis-lui que ce sont des bédouins, qu'ils se déplacent tout le temps.
Parle-lui des chameaux dans le désert et des dattiers.
Dis-lui qu'ils vivent sous la tente. Dis-lui qu'ils n'étaient pas chez eux.
Ne dis pas s'ils sont chez eux ou pas chez eux. Dis-lui qu'ils s'en vont.
Ne lui dis pas qu'ils ne l'aiment pas. Dis-lui de faire attention.
Ne lui dis pas qui vivait dans cette maison.
Non, mais ne lui dis pas non plus que son arrière-arrière-grand-père vivait dans cette maison.
Non, mais ne lui dis pas que des Arabes dormaient dans sa chambre.
Dis-lui de ne pas leur parler durement. Dis-lui de ne pas avoir peur. Ne lui dis pas qu'elle ne peut pas jouer avec les enfants.
Ne lui dis pas qu'elle peut les inviter à la maison. Dis-lui qu'ils ont beaucoup d'amis et une grande famille. Dis-lui qu'ils ont des kilomètres et des kilomètres de terre à eux tout autour. Répète-lui que c'est notre terre promise.
Ne répète pas ce qu'on a dit. Que c'était une terre sans peuple. Ne lui dis pas que si j'avais su, je ne serais jamais venue. Dis-lui qu'on peut peut-être partager.
Ne lui dis pas ça!
Des pays arabes viennent de perdre contre Israël ce qui s'appellera dans les manuels d'histoire la guerre des six jours. Un nouveau personnage entre en scène par le biais de la radio. Il s'agit de la voix des dirigeants politiques israéliens, mais aussi celle de dirigeants occidentaux, américains en particulier.
Dis-lui que nous avons gagné.
Dis-lui que son frère est un héros.
Dis-lui que leurs armées sont énormes.
Dis-lui que nous les avons repoussés.
Dis-lui que nous savons nous battre.
Dis-lui que nous avons de nouvelles terres.
Dis-lui que nous avons de nouvelles terres.
Dis-lui que nous avons de nouvelles terres.
Les personnages modifient radicalement le décor qui les entoure. Des panneaux de murs sont érigés et des colonies modernes sont construites au milieu de terres désertiques. Cela se passe en 1970, en 1980, puis en 1990. Cela s'est passé la semaine dernière.
Ne lui dis pas. Ne lui parle pas du problème de la piscine.
Dis-lui que c'est notre eau, que c'est notre droit. Dis-lui que cette eau n'est pas pour leur champ.
Ne lui parle pas du tout de l'eau. Ne lui parle pas du bulldozer.
Ne lui dis pas de ne pas regarder le bulldozer.
Ne lui dis pas qu'il démolissait la maison.
Dis-lui que c'est un chantier. Ne dis rien des bulldozers. Ne parle pas des files d'attente au point de contrôle.
Dis-lui qu'on arrivera très bientôt. Ne dis rien si elle ne pose pas de questions.
Ne lui dis pas qu'on a tiré sur le garçon. Ne lui dis rien.
Dis-lui que nous construisons de nouvelles fermes dans le désert.
Ne lui parle pas des oliviers.
Dis-lui que nous bâtissons de nouvelles villes sur des terres sauvages.
Ne lui dis pas qu'ils lancent des pierres.
Dis-lui qu'ils ne peuvent pas grand-chose contre les tanks.
Ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas qu'ils font sauter des bombes dans les cafés.
Dis-lui qu'ils font sauter des bombes dans les cafés.
Dis-lui d'être prudente. Ne l'effraie pas.
Dis-lui que nous avons besoin du mur pour nous protéger.
Dis-lui qu'ils veulent nous jeter à la mer.
Dis-lui qu'ils ne veulent pas ça.
Dis-lui qu'ils veulent nous jeter à la mer.
Dis-lui que nous en tuons beaucoup plus.
Ne lui dis pas ça.
Dis-le-lui.
Dis-lui que nous sommes les plus forts. Dis-lui que c'est notre droit. Dis-lui qu'ils ne comprennent rien d'autre que la violence.
Dis-lui que nous voulons la paix.
Dis-lui que nous allons nous baigner.
Nous sommes au début de l'année 2009, durant les semaines qui suivent le bombardement de Gaza par l'armée israélienne. Il s'agit également de la période durant laquelle cette pièce a été écrite. Les personnages sont différents de ceux du début, mais ils sont aussi les mêmes.
Dis-lui qu'elle ne peut pas regarder les nouvelles.
Dis-lui qu'elle peut regarder des dessins animés. Dis-lui qu'elle peut veiller tard et regarder Friends à la télé.
Dis-lui qu'il lance des roquettes.
Ne l'effraie pas.
Dis-lui qu'ils ont tué peu d'entre nous. Dis-lui que l'armée nous a défendus.
Ne lui dis pas que son cousin a refusé de servir dans l'armée. Ne lui dis pas combien d'entre eux sont morts.
Dis-lui qu'on a tué les combattants du Hamas.
Dis-lui que ce sont des terroristes.
Dis-lui que ce sont des ordures.
Ne dis pas ça. Ne lui parle pas de la famille des petites filles mortes.
Dis-lui qu'il ne faut pas croire ce qu'on voit à la télé.
Dis-lui que nous avons tué des bébés par erreur.
Ne lui parle pas du tout de l'armée.
Parle-lui de l'armée. Parle-en. Dis-lui qu'elle doit être fière de l'armée.
Parle-lui de la famille des petites filles mortes. Dis-lui leur nom. Pourquoi pas? Dis-lui que le monde entier est au courant. Pourquoi pas elle?
Dis-lui qu'il y a des bébés morts. Est-ce qu'elle les a vus? Dis-lui qu'elle n'a aucune raison d'avoir honte. Dis-lui qu'ils sont responsables de tout ce qui leur arrive.
Dis-lui qu'ils veulent qu'on tue leurs enfants pour que tout le monde les plaigne. Dis-lui que je ne les plains pas. Dis-lui qu'elle ne doit pas les plaindre. Dis-lui que c'est nous qui sommes à plaindre. Dis-lui qu'ils n'ont rien à nous apprendre sur la souffrance.
Dis-lui que maintenant, le point d'acier, c'est nous.
Dis-lui que ce sont les brumes de la guerre.
Dis-lui que nous continuerons de les tuer jusqu'à ce que nous soyons en sécurité.
Dis-lui que j'ai ri quand j'ai vu les policiers morts.
Dis-lui qu'ils sont des animaux qui vivent dans des décombres.
Dis-lui que je me moque qu'on les tue jusqu'au dernier. La planète entière nous détesterait, c'est tout.
Dis-lui que je me moque qu'on nous déteste.
Dis-lui que nous savons haïr.
Dis-lui que nous sommes le peuple élu.
Dis-lui que je regarde un de leurs enfants couvert de sang. Et qu'est-ce que je ressens? Dis-lui que tout ce que je ressens, c'est que je suis heureuse que ce ne soit pas elle.
Ne lui dis pas ça.
Dis-lui que nous l'aimons.
Ne l'effraie pas.
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 D'entendre la pièce « Sept enfants juifs » et nous sommes avec Yves Rochon et Lorraine Gué de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine. Merci d'être avec nous.
Merci. Ça fait plaisir.
Alors, peut-être quelques mots sur la pièce, Yves, qui est un peu ton petit projet.
Oui. Donc, il s'agit d'une pièce qui a été écrite en 2009 et qui, depuis, circule à travers le monde dans plusieurs villes, montée par des groupes de citoyens un peu comme nous. Parce que l'auteur elle-même, Mme Churchill, a rendu sa diffusion possible en la mettant gratuitement à la disposition de quiconque veut le faire. Il suffit de lui demander l'autorisation, ce qu'elle fait assez simplement, et à condition qu'on fasse une collecte pour un organisme médical d'aide en Palestine qui s'appelle Medical Aid for Palestine.
Alors, Lorraine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, justement, de la coalition, de ces activités donc qui ont inclus cette session, cette pièce?
Oui, bien sûr. Alors, la Coalition pour la justice et la paix en Palestine, c'est un rassemblement d'organismes syndicaux et communautaires principalement. Ça comprend, par exemple, la FNEC, la Fédération des femmes du Québec, la Ligue des droits et libertés et un certain nombre de groupes de solidarité avec la Palestine qui travaillent donc plus spécifiquement sur les enjeux du peuple palestinien comme PAJU, Palestiniens et Juifs Unis, Voix juive indépendante, etc. Donc, c'est une coalition qui existe déjà depuis plusieurs années, je pense dont l'origine, en fait, vient de Michel Chartrand, qui était, on ne s'en souvient pas assez, mais parmi les premiers qui ont élevé la voix, dans son cas, c'est ce qu'il faut dire, il faut élever la voix, puis pas n'importe laquelle, en faveur du peuple palestinien. Il y était allé et il était revenu indigné de la situation, et il a beaucoup travaillé avec un Palestinien qui a été d'ailleurs le cofondateur de PAJU, avec Bruce Katz, qui lui est un juif, mais Rezek Farah, justement, est un Palestinien justement qui a vécu l'exil, la Nakba, la catastrophe. Et Rezek a beaucoup contribué aussi à tenter d'éveiller un certain nombre d'organisations québécoises, des individus, mais aussi des organisations, pour que les organisations prennent position dans un conflit qui est éminemment controversé, difficile, qui demande beaucoup de courage politique pour s'y impliquer, parce que on fait face évidemment au travail intense de Québec-Israël, du Congrès juif canadien, de tous les courants sionistes et pro-israéliens qu'on retrouve dans nos gouvernements actuels, Harper en particulier, ces dernières années. Donc, c'est une coalition qui a la solidarité avec le peuple palestinien à l'ordre du jour et qui a organisé plusieurs activités au fil des temps, comme envoyer des coalitions en Palestine à 3 ou 4 reprises, qui a organisé, par exemple, l'achat d'un encart au moment de la création, le 60e anniversaire de la création d'Israël, qui correspondait bien sûr au 60e anniversaire de la catastrophe pour le peuple palestinien, donc qui donnait une autre vision, une autre narrative, si on veut, de cette histoire-là, et qui participe à des projets comme le bateau canadien pour Gaza, la campagne de boycott des investissements et sanctions.
Puis dans la pièce, il y a un choix de perspective, qui est notamment de donner la perspective depuis Israël. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce choix-là, qui répond aussi à une situation dans le débat public et dans la façon dont il est présenté?
C'est-à-dire que le choix de la perspective, c'est de donner la parole aux Palestiniens et à un certain nombre d'Israéliens qui ont entrepris un travail de critique de leur propre pays, entre guillemets. Hein? Parce que, évidemment, les Israéliens juifs qui sont en Israël présentement et qui s'élèvent contre leur propre pays, politique, si on veut, la politique de Netanyahou, la politique avant des travaillistes, c'est pas très facile d'être israélien, d'être contre les politiques israéliennes. C'est donner la voix pas à n'importe quel Israélien, c'est donner la voix à ces Israéliens-là qui s'unissent aux Palestiniens sur une base de réclamation de la justice. Pas une paix sans justice. Ça ne peut pas exister. Et ça, c'est contre l'industrie, si on veut, du dialogue absolu, hein, qui transcenderait les causes systémiques de ce conflit.
Oui, bien, peut-être ajouter par rapport à ta question, l'auteur, au départ, a écrit le texte, qui est totalement respecté, évidemment, dans l'interprétation que vous avez entendue, mais n'a pas créé les personnages comme tels. Okay? C'est-à-dire qu'elle laissait libre cours aux gens qui voulaient la jouer de répartir les répliques entre les personnages de leur choix. Okay? En notant qu'il n'y a pas d'enfant de présent dans la pièce. C'est la seule consigne. Mais évidemment, en entendant les répliques dans votre cas, vous avez compris que ça n'est que des Juifs qui parlent. Okay? Il n'y a pas de personnages palestiniens. Et que l'auteur a voulu exprimer en bonne partie ce que vient de dire Lorraine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu à travers l'histoire depuis 60 ans un seul point de vue. Il y a eu des divergences parmi la communauté juive internationale, y compris en Israël. Mais il reste que son texte aussi le démontre qu'il y a quand même un point de vue majoritaire qui a prédominé dans la pratique. C'est celui de la poursuite de la colonisation, de l'oppression. Okay? Que des voix contestataires se sont vus écartés. Okay. Nous autres, dans le choix des personnages qu'on a fait, étant donné que on n'avait pas l'intention de jouer la pièce en Israël même, mais bien ici, on a créé deux personnages qui allaient évoquer d'une part le rôle de la communauté internationale, c'est celui que vous avez entendu du politicien, ok. À la fois politicien en Israël, mais qui représente aussi l'élite politique internationale qui, dans les faits, a appuyé tout ce mouvement de colonisation et d'occupation. L'autre personnage qu'on a voulu mettre en évidence, c'est le personnage de la tante qui évoque la diaspora, appelons-la comme ça, même si ce n'est pas des gens qui sont partis comme tels, mais la communauté juive internationale, mais qui n'habite pas en Israël, pour indiquer qu'elle avait eu un poids aussi dans cette histoire-là et pouvait aussi avoir un poids pour renverser la vapeur. Et que donc, qu'il y a les gens en Israël même qui peuvent aider, éventuellement c'est eux autres qui vont négocier la solution, mais que dans le blocage actuel, il y a deux acteurs importants qui peuvent contribuer, c'est nous, en tant qu'agents, appelons-nous comme ça, de l'extérieur et qui peuvent pousser sur nos gouvernements pour rétablir un certain rapport de force. Et il y a la communauté juive internationale elle-même qui aurait intérêt à changer un peu d'attitude, ou en tout cas qu'elle est partie, appelons-la comme ça, Paju et tout ça, que si ça prenait un peu plus d'ampleur dans la communauté juive internationale, ça contribuerait également.
Donc justement, parlons-en de la situation actuelle en Palestine et du conflit, et notamment, tu nommais la question du dialogue. Hein. C'est ce qu'on entend toujours aux nouvelles, les pourparlers ont repris. C'est supposé d'être une note d'espoir systématique, et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui se passe.
Ouais, non. Effectivement, je pense que la période actuelle est parmi les multiples périodes, mais de façon, je dirais, très intense, une période de noir, une période de blocage systématique. Il n'y a pas de pourparler de paix, hein, en fait. Et d'ailleurs, ce terme-là, pourparler de paix, est toujours associé à la notion de concession réclamée des parties de façon symétrique. Et or, on se demande qu'est-ce que les Palestiniens peuvent faire comme concession de plus. Ils n'ont plus rien. Hein? Leur pays est occupé en totalité depuis la guerre des six jours en 67. Israël occupe tout ce qui restait de la Palestine historique, si on veut. Et il n'y a pas le moindre signe qu'il pourrait y avoir certaines avancées en relation avec le respect du droit international. Je dis que c'est une période sombre aussi, dans la mesure où l'arrivée d'Obama au pouvoir aurait pu susciter et avait suscité, en partie, je dirais, parce que les Palestiniens étaient sceptiques par rapport à ce qu'Obama pouvait faire, sa campagne ayant été beaucoup appuyée par les sionistes américains, sa volonté de faire reculer Israël sur un certain nombre de questions fondamentales comme la question de la colonisation, qui continue de façon systématique depuis le début, d'ailleurs, de la création d'Israël. Ça avait quand même suscité chez certains un petit espoir qu'enfin, le Yes We Can pouvait s'appliquer aussi aux Palestiniens. Mais toutes les tractations faites par l'envoyé spécial d'Obama, Mitchell, dans les deux dernières années, finalement, ont strictement rien donné. Non seulement rien donné, mais Netanyahou, qui est évidemment un gouvernement de droite et même d'extrême droite en Israël à l'heure actuelle, a gagné son pari. Quand nous étions allés, la délégation de la coalition pour la justice et la paix en Palestine en mai 2009, c'était au moment où Netanyahou se présentait pour la première fois à la Maison-Blanche. Obama avait été élu évidemment avant. Et il était parti en disant Obama fera ce que nous lui dirons de faire. C'est pleine page, la une des journaux. Une arrogance et une prétention assez incroyables, et nous ne reculerons jamais sur ce que nous avons gagné. Jérusalem ne sera jamais divisée, elle nous appartient de toute éternité, continuera de nous appartenir, et Obama devra en tenir compte. Donc il partait déjà avec cette idée-là, et au début, il a été plutôt reçu froidement, je dirais, par la Maison-Blanche, mais tranquillement, son point de vue a prévalu. Alors, et le point de vue de ce gouvernement-là en particulier, comme de ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pourparler de paix, de quoi que ce soit. Le projet fondamental d'Israël, c'est d'occuper toute la Palestine, qu'on appelle la Palestine historique, parce qu'ils considèrent, d'un point de vue biblique, que ça leur appartient et qu'ils vont y arriver. D'ailleurs, il suffit de regarder une carte qu'on ne peut pas faire à la radio, bien sûr, mais il suffit de regarder une carte du territoire palestinien depuis avant la partition par les Nations Unies en 1947 jusqu'à aujourd'hui pour s'apercevoir que c'est devenu des grenailles, hein, un territoire en miettes, finalement, qui est occupé entièrement, encore une fois, par l'État israélien, qui est colonisé et dont les actions d'Israël, sont des violations systématiques du droit international. Alors, à partir du moment où Israël ne considère pas que le droit international s'adresse à lui, et c'est exactement ce qu'ils font, ce droit-là ne nous concerne pas. Hein. Par exemple, la colonisation, l'article 19 de la Convention de Genève dit explicitement qu'une puissance occupante n'a pas le droit de transporter sa propre population dans le territoire occupé, ce que font les Chinois au Tibet, par exemple. Israël fait ça de façon systématique, encore une fois, depuis plus de 60 ans. Ça ne lève même pas le sourcil de qui que ce soit. On n'a pas le droit d'occuper un territoire par la force. Depuis 1967, c'est la force qui a fait en sorte qu'Israël occupe la Cisjordanie. On n'a pas le droit de maintenir une population en otage, comme le blocus de Gaza le fait. Israël le fait de façon systématique et sans que la communauté internationale n'intervienne, c'est-à-dire avec l'accord et la complicité de la communauté internationale, sa partie occidentale en particulier. Donc, dans ce cadre-là, quand il n'y a aucun geste de fait et d'Israël et de la communauté internationale pour que il y a un respect minimal du droit international, de quel pourparler de paix pouvons-nous parler, hein? Entre autres, la question des réfugiés palestiniens. Et ça, c'est un épisode quand même assez fascinant, malheureusement fascinant, mais assez fascinant de l'histoire israélienne. J'ai devant moi, par exemple, encore une fois, on ne peut pas voir ça aux radios, mais c'est pas grave, Le nettoyage ethnique de la Palestine. C'est un livre de Ilan Pappé. Ilan Pappé fait partie du courant des nouveaux historiens israéliens, pas palestiniens. Quand je disais tout à l'heure, la parole des Palestiniens a été délégitimée. Hein. Ça fait longtemps que les Palestiniens disaient qu'ils avaient été chassés contre leur volonté. Or, le mythe qui prévalait à l'époque, au moment de la création d'Israël, c'est que 800 000 Palestiniens seraient partis d'eux-mêmes. Hein. Ils auraient quitté leur maison comme ça, de bon gré, devant l'avance des troupes israéliennes. Or, les nouveaux historiens, justement, israéliens, pas juste Pappé, mais toute une série, Benny Morris, Vidal, etc., ont mis de l'avant, parce qu'ils ont eu accès aux archives de Tzahal, de l'armée israélienne, de Ben-Gourion et des principaux dirigeants de l'État juif en gestation et en croissance, si on veut. Ils ont montré comment les Palestiniens, qui avaient eu un véritable nettoyage ethnique de la Palestine. Pourquoi? Parce qu'un État juif ne pouvait pas naître sur un territoire où il y avait des non-juifs. Donc, le nettoyage faisait partie intégrante de la naissance d'Israël. C'est ce que certains historiens ont appelé le péché mortel d'Israël. Sa naissance est basée sur le nettoyage ethnique de la Palestine. Or, quand tout ça s'est produit, tout de suite, les Nations Unies, quand ça s'est produit en 1947, tout de suite, quelques mois après, donc décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies vote une résolution disant « Ces réfugiés-là, ils ont le droit de revenir dans leur terre et sur leur terre et dans leur maison. » Ils étaient partis juste avec la clé en main parce qu'ils pensaient revenir vite. Hein. Alors, ces réfugiés-là ont droit de revenir et d'avoir des compensations pour ce qui leur est arrivé. Or, jamais Israël n'a respecté cette résolution-là, qui était en même temps une condition pour faire partie de l'Assemblée des Nations Unies pour Israël. Ils ont dit oui du bout des lèvres, mais ils ne l'ont jamais mis en application. Et c'est encore un sujet de controverse majeure concernant ce conflit-là. C'est d'ailleurs une des revendications de la campagne de boycott des investissements et sanctions, une des trois revendications majeures, les seules trois grandes revendications de cette campagne-là, c'est le droit de retour pour les réfugiés. Donc, pour revenir à la question de départ, considérant que toutes ces questions-là majeures ne sont pas réglées et ne sont pas sur la planche à dessin à partir du droit international, il n'y a pas de pourparlers de paix possible entre les forces en présence à l'heure actuelle.
Et cet échange qu'on a en ce moment dans l'intimité d'un studio, d'habitude, elle a lieu après la pièce devant un public, parce que c'est aussi l'idée de la pièce. Donc, je me demandais c'est quoi l'effet saillant un petit peu de cet exercice d'éducation populaire avec un conflit qui est bien connu et mal connu à la fois, bien connu parce que c'est célèbre et tout le monde a entendu parler de la Palestine, mais souvent méconnu parce que on entend des points de vue complètement incohérents, en fait, si on écoute les médias ou on regarde les médias alternatifs. Mm-hmm. Alors, comment ça se passe avec le public, la discussion, etc.?
Ben, évidemment, la discussion peut varier un peu dépendant du public en question. Si on est, par exemple, dans un milieu étudiant ou dans un groupe populaire ou parmi des enseignants. Mais il y a quand même, des thèmes qui reviennent. En gros, parce que là, on la joue depuis l'automne, on a fait quoi, 6-7 représentations. Et en fait, la première question souvent qui nous est posée, c'est est-ce que les paroles qu'on vient d'entendre, c'est des paroles que du vrai monde ont dites? Parce que les gens sont assez estomaqués quand même de la force, de l'intensité des répliques. Vous venez de les entendre. Et donc, on leur répond que oui, à notre connaissance de façon générale, il y a un certain nombre de ces répliques-là qui ont été dites même publiquement ou qui l'ont été certainement dans le privé. Donc, ça, c'est la première question. Il y a aussi des questions sur « oui, mais c'est quoi la solution? » Parce que, comme tu viens de le dire, Blandine, c'est un sujet, même pour les jeunes, dont ils ont entendu parler. Ça fait quoi, 60, presque 100 ans même que ce conflit-là est dans l'actualité. Et donc, ils disent « ben oui, mais est-ce qu'il y en a une solution? Et si oui, laquelle? » Et des fois, la discussion part là-dessus. On essaie dans nos animations de ne pas passer tout le temps là-dessus, entre autres parce que ce qu'on se dit, c'est que c'est pas nous autres ici qui va la trouver la solution dans le détail. Est-ce que Jérusalem-Est devrait faire partie de quel État? Est-ce qu'il devrait avoir un État ou deux? Bon, on peut en jaser comme ça, mais c'est pas notre principale préoccupation. Notre principale préoccupation, c'est la troisième question que souvent nous est posée. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire nous autres, OK, ici? Et donc, là, à ce moment-là, on se met à jaser de justement du rôle que peuvent jouer même les citoyens à travers le monde pour influencer le processus, entre autres pour débloquer la situation, un peu comme vient de dire Lorraine, dans une situation où il n'y a pas de négociation, ou en tout cas, il n'y a pas de négociation sur un terrain égal. On jase avec eux autres que, même si ça ne saute pas aux yeux, que comme citoyens, citoyennes, on peut, par différents moyens, défaire un peu ce blocage-là, rétablir un certain rapport de force, forcer une négociation, entre autres par des moyens d'action comme ceux que vient d'évoquer Lorraine, le boycott des produits israéliens, l'appui à des actions comme le bateau pour Gaza, l'éducation et participation à des manifestations, etc. Et que, donc, on essaie de défaire un peu le cynisme qui s'instaure, c'est sûr, face à des jeunes comme à des plus vieux, face à un conflit comme ça qui n'en finit plus de finir, pour indiquer qu'il y a quand même des moyens de renverser un peu la vapeur. Donc, c'est un peu autour de ça que porte l'animation. Et à l'occasion aussi, sur le rôle de l'art face à une situation comme celle-là, c'est-à-dire, et c'est un peu un exemple que nous donne cet auteur-là, que des fois, l'art peut aider à comprendre. C'est comme un autre moyen d'aider à comprendre des situations complexes. Par une voie poétique, à saisir l'essentiel, des fois, d'une situation qui nous saute pas aux yeux en lisant les journaux quotidiennement. Alors, donc, ça amène des fois des discussions aussi sur le rôle de l'art et de l'art communautaire de façon générale.
Je dirais, j'ajouterais simplement que une des questions qui est parfois posée, peut-être pas toujours après la pièce, si on veut, c'est pourquoi est-ce que des mouvements comme les nôtres ciblons Israël dans les... il y a tellement de conflits à travers le monde, ce qui se passe en Afrique, les Grands Lacs, etc. Des fois, en Amérique latine, ça continue aussi, en Colombie, etc., au Mexique. Tu te demandes pourquoi cibler Israël? Ces questions-là, évidemment, viennent beaucoup de Québec-Israël et de ceux qui reprochent l'attention qu'on accorde à ce conflit-là en particulier. Même, on va plus loin que ça, on dit à l'heure actuelle que ça fait partie des nouvelles manifestations d'un antisémitisme, si on veut, c'est une nouvelle forme d'antisémitisme que de s'attaquer particulièrement à Israël. Premièrement, c'est complètement faux que les autres conflits sont laissés dans l'ombre. C'est pas nécessairement les mêmes personnes qui s'en occupent, mais quand même, il y a plein de gens qui s'occupent de plein de conflits, etc. Mais pour nous, il y a des raisons particulières, effectivement, de ce préoccupé de ce conflit-là, c'est que comme occidentaux, on a une responsabilité importante à la fois dans la création de ce problème-là et donc dans la contribution modeste, si on veut, mais dans la contribution à sa résolution. On a une responsabilité parce que ce sont les Occidentaux qui ont contribué de façon déterminante à la création même de l'État d'Israël. On se souviendra que le courant qui voulait créer un État juif, si on veut, a progressivement gagné des appuis auprès des pays occidentaux de l'époque. Hein. L'histoire n'a pas commencé avec la Shoah. On pense souvent que c'est parce qu'il y a eu le massacre horrible des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale que Israël a été créé, bien sûr, ce contexte-là à l'époque a joué énormément, mais le mouvement qui voulait créer un État pour les Juifs date de bien avant la Shoah, de la fin du 19e siècle, en fait. Et les Anglais qui étaient responsables, qui étaient les mandataires, si on veut, de ce qu'on appelle la Palestine historique, parce que, bon, il faut revenir sur la Première Guerre mondiale, hein, quand l'Empire ottoman a été démantelé, la Palestine, c'était une des provinces de l'Empire ottoman, et les vainqueurs avaient promis à cette province-là, comme aux autres, Syrie, Liban, Irak, Iran, etc., la constitution d'États indépendants. Or, ce que les Britanniques ont plutôt fait dès 1917, c'est qu'ils ont émis la déclaration Balfour en 1917 qui mettait de l'avant la création d'un foyer national juif en Palestine. Mandataire en Palestine historique, on a dit à la condition que ça ne porte pas atteinte ni aux droits civils et religieux des collectivités non-juives existant en Palestine. Alors, on vient installer un foyer national juif, dans le fond, l'amorce, l'embryon d'un État juif, en plein milieu de ton pays à toi, en disant, ben, il ne faut pas que ça vous fasse trop mal par ailleurs, tu sais, ce qui était complètement irréaliste. Alors, et cette position-là a été appuyée par les pays occidentaux. Elle s'est confirmée dans la création et le vote sur la partition, un vote controversé, ça n'a pas été un vote unanime non plus. Et par la suite, les pays occidentaux ont constamment appuyé l'Israël qui était en train de naître. Et on peut répliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à toutes les violations. Pourquoi? Parce que dès le début du siècle, dès la fin de la Première Guerre mondiale, le courant sioniste avait réussi à faire comprendre aux pays occidentaux qu'ils avaient intérêt à avoir une sorte de tête de pont occidentale au Moyen-Orient. Et quand on lit l'histoire, même l'histoire du point de vue des Israéliens, on voit très bien que Israël est présenté comme le phare de la civilisation dans ce monde barbare qui est évidemment le monde l'Orient. Hein? Quand Thierry Hensch a écrit L'Orient imaginaire, il montre comment l'Occident a eu constamment à travers l'histoire une vision complètement déformée de ce qu'était l'Orient. C'est notre vision à nous. Donc, d'avoir un pays qui a toutes les attributs ou les caractéristiques d'un pays occidental en plein milieu de ce monde oriental représentait un atout très important, un atout stratégique pour les pays occidentaux. Et les Américains en tête, bien sûr, ont toujours soutenu cette vision-là des choses. Donc, et d'ailleurs, quand on va en Israël, on s'aperçoit effectivement que C'est un pays occidental, qui n'a pas grand-chose d'un pays oriental, si on veut. Donc, nous, on pense qu'à cause de cette situation-là, à cause du rôle qu'on a joué, puis j'inviterais beaucoup nos auditeurs et auditrices à s'informer, à lire, et en particulier, il y a un bouquin assez fantastique d'un journaliste anglais, Robert Fisk, qui s'appelle « La grande guerre pour la civilisation », et le sous-titre, c'est « L'Occident à la conquête du Moyen-Orient ». Et il décrit très bien, comme dans un roman quasi, comment, effectivement, l'Occident colonisateur, impérialiste, a continué sa conquête du Moyen-Orient par les guerres qu'on a menées, et donc l'appui à Israël dans ce contexte-là. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, on a une responsabilité particulière pour tenter de renverser le courant, tenter de renverser la vapeur, tenter de renverser l'image même qu'on se fait. Tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas trop comment comprendre ce conflit-là, ou on le comprend n'importe comment, etc. Bien, on a un devoir, une responsabilité importante d'essayer de le comprendre et d'agir comme occidentaux dans une perspective beaucoup plus de respect de droit international qui établirait à ce moment-là une certaine justice par rapport au peuple palestinien.
Alors justement, pour s'informer et pour agir, c'est le moment de donner des contacts et des choses à suivre dans les prochains mois et surtout, comment inviter ou aller voir la pièce.
Ben, comment nous inviter? Tout simplement en communiquant avec nous via notre adresse courriel, c'est peut-être le plus simple parce que vous comprendrez qu'on n'a pas de permanence, de numéro de téléphone, tout ça est fait bénévolement. Alors, je vous donne l'adresse courriel où nous rejoindre, cjpptheatre@gmail.com. Et j'indique que notre pièce, de toute évidence, la demande est assez grande qu'on va continuer à l'automne. On est déjà occupé, on a 5-6 représentations en vue pour ce printemps jusqu'au mois de juin. Mais donc, on reçoit des demandes pour l'automne prochain. Je précise que ce dont il s'agit, c'est de la diffusion communautaire. Il suffit d'être un petit groupe, 15-20 personnes, qui est intéressé à voir notre activité. Et ça ne prend pas un grand local de théâtre, un petit espace de 20 pieds carrés nous suffit. On a un petit équipement. Alors donc, gênez-vous pas pour communiquer avec nous.
Et donc, pour s'informer sur toutes les autres campagnes, les activités de la coalition et d'autres?
Je dirais qu'il y a deux gestes très importants qui pourraient être faits de façon immédiate. Le premier, c'est d'apporter son appui à la campagne de boycott des investissements et sanctions. Et on peut rejoindre cette campagne-là en tapant tout simplement bdsquebec.org et on va avoir accès à des informations là-dessus. Et l'autre projet, c'est le bateau canadien pour Gaza qui doit partir dans environ quelques semaines, si on veut, faisant partie d'une flottille qui va tenter de briser le blocus de Gaza et il y aura parmi la dizaine de bateaux qui vont faire partie de cette flottille, il y aura un bateau canadien sur lequel il y aura aussi un certain nombre de Québécois et de Québécoises. www.bateaugaza.qc.ca.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.